France Info.
Avec vous, Christine Peña, de bonne heure sur France Info. Merci d'être avec nous, il est 5h. Et à la une de ce 18 mars, donc, les affiches désormais connues pour le second tour des municipales. Les listes sont déposées avec des désistements de dernière minute à Bordeaux, à Marseille ou encore à Paris. À la une aussi ce matin, un projet de loi pour réduire les délais de jugement des affaires criminelles. Il est présenté aujourd'hui en Conseil des ministres, on va vous le détailler. Et puis un énorme retournement de situation, 2 mois après la victoire du Sénégal en finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Eh bien c'est finalement le Maroc qui est proclamé vainqueur. Explication en fin de journal. Qui est en lice pour le second tour? Cette fois, c'est définitif avec la clôture hier soir des listes pour les municipales avec, nous le disions, des surprises à commencer par Bordeaux. Le troisième homme du premier tour, le centriste Philippe de Sertine, a décidé de se retirer, ce qui dégage la route pour le candidat macroniste Thomas Cazenave qui ambitionne de renverser le maire écologiste Pierre Urmic, Audrey Tison.
Il avait promis de maintenir sa liste citoyenne. Philippe de Sertine ne l'a finalement pas redéposée en préfecture avant l'heure limite. L'économiste explique avoir réfléchi sur la base de son résultat.
Ces 20,2% sont insuffisants. Je dois me rendre à l'évidence. La victoire dimanche prochain n'est pas envisageable. J'ai donc pris la décision de me retirer.
Celui qui se présentait sans le soutien d'aucun parti a-t-il subi des pressions pour se retirer?
Je vous assure que les pressions amicales et non amicales, nous en recevons depuis 6 mois. Le système n'aime pas les candidats hors système. Nous prenons nos responsabilités de citoyens sans en référer à personne.
Et son adversaire écologiste Pierre Urmic y voit la trace de décisions qui se prennent à Paris. Tandis que le candidat de la droite et du centre salue la décision de Philippe de Sertine.
C'est une décision qui l'honore.
Thomas Cazenave espère bien récupérer une bonne partie des électeurs orphelins.
Ils retrouveront dans le projet que nous continuons à défendre beaucoup de sujets que Philippe de Sertine lui-même a défendus dans cette campagne.
De son côté, Philippe de Sertine ne donne aucune consigne de vote.
Merci Audrey Tison. À Paris aussi, la course se resserre. Aurélie Herbemont, service politique de France Info. Au départ, les Parisiens, ils étaient partis pour une quinquagulaire, 5 listes, mais ce sera finalement une triangulaire, 3 listes.
Emmanuel Grégoire, le candidat du PS, sorti largement en tête du premier tour et ce matin en position moins favorable, car Rachida Dati sera la seule candidate à droite. La zémouriste Sarah Knafo se retire pour faire battre la gauche, même si Rachida Dati a refusé toute alliance avec elle. La candidate LR a en revanche fusionné avec les soutiens de Pierre-Yves Bournazel. Elle va donc jouer à fond la carte de l'alternance quand Emmanuel Grégoire est concurrencé sur sa gauche par Sophia Chiquet. Le socialiste a refusé toute fusion avec les insoumis. Il va donc beaucoup insister ces prochains jours sur une alliance des droites qui ne dit pas son nom autour de Rachida Dati pour espérer garder Paris à gauche.
Et pour compléter notre tour de France des désistements, partons pour la deuxième ville de France, Marseille, où il n'y aura finalement que 3 candidats dimanche. L'insoumis Sébastien Delogu, arrivé 4e au premier tour, se retire. Il l'annonce, un retrait face à une possible victoire du Rassemblement National. Le maire sortant de gauche, arrivé en tête, Benoît Payan, avait refusé de fusionner et il appelle désormais au Rassemblement.
Il n'y a aucune élection gagnée d'avance. Je suis face au RN et encore une fois, je veux rappeler aux Marseillaises et aux Marseillais que cette affaire-là, elle n'est pas terminée. Et que c'est dimanche que les choses se feront. Et que c'est dimanche qu'il faut aller voter. Et que c'est tous ensemble. Et que quel que soit notre vote, il faut retourner voter dimanche en masse pour dire non à celles et ceux qui veulent nous diviser. Parce que nous, les Marseillais, nous avons des choses en commun qui sont plus grandes que les choses qui nous divisent. Si dimanche, le Rassemblement National devait l'emporter, qu'est-ce qu'il mettrait en avant? Ce qui nous divise.
Benoît Payan, le maire sortant de Marseille, qui va donc tenter de se faire réélire dimanche prochain, élection municipale, second tour que l'on suivra évidemment sur France Info. Il est 5h04, l'Iran confirme officiellement la mort d'Ali Larijani, l'un des hommes les plus puissants du régime, tué dans une frappe américano-israélienne. L'Iran promet de venger sa mort et poursuit ses frappes dans la région avec de nouvelles explosions entendues au Qatar. Un projectile iranien s'est aussi écrasé à proximité du quartier général de l'armée australienne aux Émirats. Émirats Arabes Unis annonce Canberra. De son côté, Donald Trump s'en prend au pays de l'OTAN. Il a demandé le soutien de ses alliés pour sécuriser le détroit d'Ormuz. Mais le président américain estime désormais que les États-Unis n'ont finalement pas besoin d'aide. Et il fait le constat que personne ne voulait être impliqué dans cette guerre. Mais Donald Trump en veut aux pays de l'OTAN qui, selon lui, ne rendent pas aux États-Unis ce qu'ils ont obtenu depuis des décennies.
Malgré le fait qu'on les ait énormément aidés, on a des milliers de soldats dans ces pays, dans le monde entier, ils ne veulent pas nous aider, ce qui est incroyable. Mais on n'a pas besoin d'aide. Presque dès le premier jour, on a atteint nos objectifs. On a anéanti leur marine en gros en deux jours. Et j'ai été surpris de voir que les pays de l'OTAN ne nous aident pas, bien qu'ils soient d'accord sur le fait que c'était une chose très importante à faire. Personne ne nous a dit « vous ne devriez pas le faire ». L'OTAN fait une erreur vraiment stupide. J'ai beaucoup dit que je me demandais si l'OTAN serait là pour nous. Eh bien, c'était un grand test.
Déclaration de Donald Trump, le président américain. Comment juger les viols, les meurtres plus rapidement? Comment réduire les délais interminables de jugement? Ou encore, comment désengorger les tribunaux? Voilà toutes les questions auxquelles un projet de loi compte répondre. Le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, présente ce matin un texte en Conseil des ministres, Margot Stiff, pour répondre à une situation d'urgence.
Oui, certains hauts magistrats parlent même de submersion. Le nombre de dossiers a quasiment doublé depuis 2018, des cas de violences sexuelles surtout, mais sans que les juridictions aient les moyens de suivre. Résultat, 6000 affaires criminelles sont aujourd'hui bloquées en attente d'un procès, avec une conséquence très concrète. Il faut aujourd'hui 6 ans en moyenne pour juger une affaire de viol, 8 ans pour les meurtres, avec le risque de voir certains suspects de crimes graves être libérés en attendant leur procès.
D'où ce projet de loi, donc, Margot, et notamment une mesure qui risque de concentrer les débats, la création d'un plaidé coupable en matière criminelle.
Oui, cela existe déjà pour certains délits ou en matière financière. Gérald Darmanin veut l'étendre aux affaires de viol ou de meurtre avec une réduction de peine si l'accusé reconnaît les faits avant même d'être jugé, à condition que la victime soit d'accord. Il y aura toujours une enquête, mais pas de vrai procès, seulement une audience sur une demi-journée, sans expert ni témoin. Ensuite, 3 juges fixent la peine. L'objectif, c'est de diviser drastiquement les délais. 6 mois entre la fin de l'enquête et la condamnation, entre 4 à 6 ans actuellement, au risque d'une justice au rabais, disent certains. Mais face aux critiques, la chancellerie affirme que cela ne concernerait que les dossiers les plus simples, environ 15% des affaires criminelles.
Merci pour ces précisions, Margot Stiff, service police-justice de France Info. C'est un revirement énorme, peut-être même inédit dans l'histoire du foot moderne. 2 mois après la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, remportée par le Sénégal face au pays hôte, le Maroc, la CAF, la Confédération Africaine de Football, annonce dans un communiqué que le Maroc est finalement déclaré vainqueur de la compétition sur tapis vert par forfait, le Sénégal gagnant 1-0 sur le terrain et donc déchu de son titre 2 mois après l'avoir célébré en grande pompe après une finale très houleuse. Cette décision, elle a été prise par le jury d'appel de la CAF après les incidents donc qui sont survenus pendant cette finale. Pas ceux en tribune, Fanny Lechevestrier, mais ceux sur le terrain.
Oui, quand la plupart des joueurs sénégalais ont quitté le terrain de longues minutes en protestation à un pénalty accordé au Maroc. Dans son communiqué, le jury d'appel de la Confédération africaine de football stipule que l'équipe a ainsi enfreint l'article 82 du règlement de la CAN, ce qui entraîne d'office son forfait. Mais alors pourquoi cette décision si tardive? Cela fait suite à un nouveau recours déposé par le Maroc. Le dossier a été réexaminé hier au Caire avec toutes les parties entendues en visio. L'histoire est loin d'être fini pour autant. La Fédération royale marocaine de football a déclaré hier soir prendre acte de la décision et préciser qu'elle s'exprimerait plus longuement dans la journée. Dans le même temps, en réaction, la Fédération sénégalaise publie, elle, sur les réseaux sociaux, des vidéos de la célébration du titre à Dakar. De nombreux joueurs sénégalais en ont fait de même, à commencer par le plus célèbre d'entre eux, le capitaine Sadio Mané, avec ce message. Le monde connaît les vrais champions.
Merci Fanny Lechevestrier. La Fédération sénégalaise de football dénonce dans un communiqué une décision inique et annonce aussi faire appel devant le tribunal arbitral du sport. Et puis Chelsea n'a vraiment pas fait le poids face au Paris Saint-Germain qui l'emporte 3-0 sur la pelouse des Londoniens au match retour des 8e de finale de la Ligue des Champions. Les Parisiens avaient déjà largement emporté lors du match aller et se qualifient donc pour les quarts de finale. On y reviendra en longueur dans le journal de 5h30. Christine Peña, joie, bonheur. C'est une journée printanière qui nous attend.
Oui, avec du soleil qui va s'imposer assez facilement, excepté sur le sud-est. Nous avons un petit retour là, nuageux, faiblement pluvieux, avec des averses dès ce matin sur la Corse et les Alpes du Sud. Et petit à petit, ces nuages poussés par le vent d'Est, là, va envahir la région PACA, puis le Languedoc-Roussillon. Alors, très peu de pluie, finalement. Ce sont surtout de nombreux passages nuageux. Demain, voilà, ça sera juste passé. On a une belle différence encore entre les températures du matin et l'après-midi, avec frais ce matin, mais cet après-midi, belle amplitude. On a parfois plus de 15 degrés de différence, souvent 20 degrés d'ailleurs aujourd'hui entre la Nouvelle-Aquitaine et le Limousin.
Merci beaucoup Christine Peña, 5h10.
France Info, le monde d'Élodie.
Bonjour, c'est Élodie Suigo. Je vous retrouve du lundi au vendredi sur France Info, cinéma, théâtre, littérature, musique, sport. Chaque jour, je vous propose un entretien sous forme de portrait avec un artiste autour de son actualité.
Le monde d'Élodie, c'est toute la semaine à 5h20 et 10h50 sur France Info.
Au programme d'ici 5h30, France Info aux côtés d'Iraniens qui font le choix de retourner dans leur pays malgré la guerre. Nous sommes montés dans le bus qui les ramène chez eux. Reportage dans une dizaine de minutes. Et d'abord, les municipales.
France Info, 5h-6h, William Gecosta.
Chaque élection réserve son lot de surprises. Eh bien, on n'est pas déçu avec ces municipales. Des retraits, des alliances, des contre-alliances, tout a été dévoilé hier soir avec l'horaire limite pour déposer les listes pour les seconds tours en préfecture. Bonjour Paul Barcelone.
Bonjour.
Service politique de France Info. Alors, tentons d'y voir plus clair. Commençons par les deux plus grandes villes du pays avec des réalités très différentes à Paris et à Marseille.
Avec des schémas politiques différents. À Marseille d'abord, le risque est une victoire du Rassemblement National, d'où le retrait de Sébastien Delogu. Je ne laisserai pas un millimètre d'espace au RN, jure celui qui est aussi député de la France Insoumise. La voie semble donc désormais dégagée, au moins sur le papier. Pour Benoît Payan, le maire sortant, même si Jean-Luc Mélenchon hausse le ton et lui reproche son sectarisme, lui reproche de ne pas le remercier, le tribun insoumis, tente, vous le comprenez, de se poser en sauveur dans le costume de celui qui aura peut-être empêché Marseille de basculer Romain du RN. À Paris, la donne est différente. Maintien donc de la liste de Sophia Chikirou, c'est une très proche de Jean-Luc Mélenchon, malgré l'avance au premier tour du socialiste Emmanuel Grégoire. Alors la question est de savoir si elle prend le risque de favoriser une victoire de Rachida Dati. C'est possible. En tout cas, une chose est sûre, le match est relancé, d'autant que Sarah Knafo a annoncé qu'elle se retirait. La candidate de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, avait, vous le savez, tout juste passé la barre des 10% au premier tour. Cela offre donc un petit espoir de victoire au camp de la droite qui avait déjà reçu le soutien de Pierre-Yves Bournazel.
Paul, difficile malgré tout de dégager des logiques nationales vu ce que l'on voit dans chaque ville. Mais est-ce que le Parti Socialiste et la France Insoumise sont vraiment à gauche rabibochés ?
Alors théoriquement, il n'y avait pas d'accord national ou d'alliance à gauche au premier tour, mais la règle est finalement assez simple à comprendre. Dès qu'il y a un risque de défaite, la gauche se rabiboche. Le PS veut en fait sauver ses bastions et accueille des insoumis sur ses listes. À Nantes, Brest, Avignon, Clermont-Ferrand, dès qu'il y a une possibilité de conquête aussi pour la gauche, là encore, alliance et fusion. Citons cette fois Toulouse et Limoges, où LFI était en position de force après le premier tour. Jean-Luc Mélenchon semblait d'ailleurs avoir tout vu avant l'heure. Écoutez cet extrait de son meeting à Bondy en région parisienne début mars.
Au deuxième tour, non plus, il n'y aura pas d'accord.
Penses-tu ?
Vous savez ce que c'est des gros combinards. Ils vont pas nous coûter trop cher, je pense, à acheter pour le deuxième tour.
Mais quand même ! Quand ils disent « il n'y aura pas d'accord national », ça veut dire « faites votre tambouille ! Faites votre tambouille localement !»
Résultat des courses, une nouvelle crise de nerfs à gauche. Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, est vilipendé. Raphaël Glucksmann, sur cette antenne sur France Info, a dénoncé sa manière de faire de la politique, son manque de clarté. La direction du PS se défend, je cite, « on n'a jamais dit qu'on était de droite, on n'a jamais dit qu'il fallait un cordon sanitaire avec la France insoumise, au risque de laisser l'impression d'accord d'appareil d'une immense tambouille » au détriment des électeurs.
Merci beaucoup Paul Barcelone du service politique de France Info. Vous l'évoquiez il y a un instant à Marseille, les insoumis se désistent pour empêcher la victoire de Franck Alizio tête de liste du Rassemblement National. La candidate LR Martine Vassal reste, elle, en piste, configuration qui complique donc la tâche de Franck Alizio et qui inquiète ses électeurs. Reportage à Marseille, signé Hélène Terzian.
On va quand même aller voter, mais On n'a pas trop d'espoir.
Claudie lève les yeux au ciel en papotant avec Brigitte à deux pas du Vieux-Port. Elles ont voté pour Franck Alizio au premier tour, mais prédisent un échec de leur champion.
Tu prends les mêmes et tu recommences. Voilà.
Ça on a pas, peur.
Ça sent pas la nouveauté. Ça sent la même chose.
Et oui.
Les deux amis le prennent avec philosophie. Mais le maintien de la candidate de la droite et du centre, Martine Vassal, et le désistement de l'insoumis Sébastien Delogu pour faire barrage au RN finissent par dégoûter Marie.
C'est des magouilles, hein. À Marseille, il n'y a que ça, d'ailleurs. Mais là, franchement, je ne voterai plus si ça se passe comme ça.
Entendez si Benoît Payan l'emporte face à Franck Alizio. Pour le candidat du RN qui talonnait le socialiste au premier tour, l'équation se complique, mais pas question de se montrer fébrile. Après l'annonce du désistement du candidat LFI, il dénonce...
Une alliance tacite entre M. Payan et M. Delogu.
Et désingue plus globalement les décisions de ses rivaux.
Quelque part, ils essaient de porter un coup fatal à Marseille. Les Marseillais ne se laisseront pas faire. Les Marseillais résisteront.
Son appel aux leaders de la droite et du centre pour obtenir le retrait de Martine Vassal n'aura pas été entendu alors. Franck Alizio compte surtout sur le bon sens des électeurs de la candidate. Jacques André, sympathisant du RN, veut y croire.
Martine Vassal, elle n'est pas propriétaire de ses électeurs. Les jeunes de droite voteront Franck Alizio. J'en suis convaincu. Des tas d'amis à moi qui ont voté Martine Vassal par fidélité à l'héritage de Jean-Claude Gaudin voteront Franck Alizio au second tour pour faire barrage à la gauche.
Antoine ne verrait pas d'un mauvais œil le basculement de sa ville aux mains du RN.
Pourquoi pas, ouais, effectivement, ça peut être intéressant de voir ce que ça peut devenir un parti comme le RN dans une grande ville de France. Une ville comme Marseille a besoin d'un peu plus de sécurité. En fonction des quartiers, c'est plus ou moins propre. Voilà, donc,
Mais pour lui, c'est mission impossible.
Non, ils n'y arriveront pas, non. Il y a un front républicain à chaque fois qui se met en place et normalement, ça passera pas. Non. Mais c'est comme ça.
C'est la politique, conclut-il, un brin désabusé.
France Info, reportage signé Hélène Terzian à Marseille, où la tâche s'annonce donc ardue pour le RN, mais le bilan du parti à la flamme pour l'instant est bon dans ces municipales. 24 communes ont déjà été remportées dès le premier tour de dimanche dernier et le Rassemblement National est présent au second dans une centaine de communes dimanche prochain avec des surprises comme à Saint-André-de-Cubzac en Gironde. Le jeune candidat du RN a terminé en première position, 13 voix d'avance sur la liste de gauche de la municipalité sortante dans un bastion socialiste où certains ont du mal à s'en remettre, Audrey Tison.
Les 34% du RN, Léa n'en revient toujours pas.
Oui, très surprise. Je pense qu'en effet, la ville peut basculer RN au second tour. Et c'est une crainte.
Alors, la jeune femme tente de mobiliser le maximum d'habitants pour le second tour.
J'en discute autour de moi, dans mon quartier, pour essayer de mobiliser. Exprimez-vous, en fait, pour ne pas avoir à regretter.
Regretter quoi? C'est la question que pose Mathieu, qui assume son vote pour le RN.
Ils ont peur de quoi, en fait? Moi, ce que j'ai lu, c'est qu'ils veulent augmenter le nombre de caméras, la police, tout ça. Enfin, je pense que c'est pas plus mal, quoi. Là, il y a eu quand même un meurtre l'année dernière qui est quand même choquant. On parle de trafic de drogue. Les gens ont peut-être compris, ils veulent du changement et puis voilà.
Sécurité et envie de changement, ce sont les deux principaux axes de Pierre Le Camus, la tête de liste du Rassemblement National.
Nous avons proposé des choses, un véritable changement par rapport à une équipe qui est en place depuis 50 ans finalement. Je pense que les gens sont prêts aujourd'hui à cette alternance. Il y a une vague locale, il y a un travail d'implantation qui est mené depuis des années.
Face à lui, Michaël Courceau n'a pas dit son dernier mot. Le premier adjoint sortant dirige la liste de gauche. Il a des arguments pour aller chercher les voix des nombreux abstentionnistes.
Si on veut continuer à vivre bien Saint-André, continuer à avoir des animations, un tissu associatif très présent, il ne faut pas laisser la place à d'autres. Le soutien aux associations, la vie culturelle, ce n'est pas la priorité du Rassemblement National. Il nous parle de mettre 15 policiers municipaux, mais avec quels moyens?
La sécurité, c'est aussi la priorité de la troisième liste en lice, celle unissant la droite et le centre. Vincent Charrier, conseiller municipal d'opposition, estime que c'est lui qui incarne l'alternance.
La droite, c'est nous. Je me suis toujours battu à chaque conseil municipal pour le renforcement de la police municipale, pour plus de caméras. La sécurité est un sujet qui nous tient à cœur, au même titre que l'urbanisme, au même titre que le soutien aux commerces locaux.
Il lui reste moins de 3 jours pour faire passer le message aux électeurs.
France Info reportage en Gironde signé Audrey Tison. Un document France Info à venir. Nos reporters sont montés dans un bus qui ramène des Iraniens dans leur pays malgré la guerre. Ils font le choix de rentrer. Rendez-vous dans un instant.
France Info, 5h-6h.
À 5h20, c'est l'heure de l'info en une minute avec Maureen Suignard.
Et ça y est, les listes sont déposées. Les listes pour le second tour des élections municipales. À Paris, Sarah Knafaux, qui menait une liste d'extrême droite, se désiste pour faire barrage à la gauche. À Marseille, Sébastien Delogu de la France Insoumise se désiste pour éviter la victoire du Rassemblement National. La guerre va frapper tout le monde, assure ce matin le chef de la diplomatie iranienne. L'Iran confirme la mort du chef du Conseil suprême de la sécurité nationale. Par ailleurs, l'armée israélienne poursuit ses frappes au Liban. 6 personnes sont mortes à Beyrouth selon les autorités. Les salariés du site Le Bon Coin appelés à faire grève aujourd'hui, une première selon l'intersyndicale qui dénonce une dégradation des conditions de travail. Le site français d'e-commerce a été racheté par 2 fonds d'investissement anglo-saxons. Et puis cet incroyable rebondissement à la Coupe d'Afrique des Nations, c'est finalement le Maroc qui est déclaré vainqueur 2 mois après la finale. Le jury d'appel de la CAN retire le titre au Sénégal en raison du comportement des joueurs. Ils avaient quitté le terrain sans l'accord de l'arbitre. La Fédération sénégalaise de foot va faire appel.
France Info.
C'est un nouvel homme fort du régime iranien qui a perdu la vie dans les frappes israélo-américaines. Ali Larijani, l'un des plus puissants dirigeants du pays, a été tué hier. Confirmation donnée cette nuit, il sera inhumé aujourd'hui. Le régime vacille, il tangue, mais pour l'heure, il se maintient et la guerre se poursuit. Ça ne décourage pas tout de même des Iraniens de retourner dans leur pays. Faute d'avion, ils se retrouvent à Istanbul, en Turquie, d'où partent chaque jour plusieurs bus vers Téhéran. Il y a 30 heures de route. Marie-Pierre Véro, vous les avez accompagnés jusqu'à la frontière iranienne. Reportage.
Ils ont pris place au fond du bus, un couple et leur fillette de 8 ans. Cet imprimeur de Machad est allé à Istanbul récupérer sa femme et leur enfant qui étaient à Dubaï et dont le vol retour vers Téhéran a été annulé. Revenir au pays malgré les bombes, la question ne se posait pas.
C'est mon pays, ma maison est là-bas, mon travail aussi, je dois rentrer. Oui, bien sûr que c'est dangereux, mais je n'ai pas le choix. Et puis, on ne sait pas combien de temps cette guerre va durer.
Une trentaine d'Iraniens se retrouvent dans ce bus pour un périple de plus de 30 heures. Lui vit en Allemagne et rentre fêter Nowruz, le nouvel an perse, avec sa famille.
La seule chose que je veux, c'est voir un changement de régime en Iran. Et la guerre, c'était la seule solution. Il n'y a pas de manière rationnelle de mettre un terme à ce régime. Ce sont des radicaux qui n'écoutent pas notre voix. Alors Donald Trump, pour le peuple iranien, c'est un héros.
De l'autre côté du couloir, une jeune fille s'emmitoufle dans sa doudoune en regardant défiler le paysage. Elle vient des États-Unis. Comment se réjouir de la guerre, demande-t-elle. D'autant qu'elle ne croit pas à la chute prochaine du régime.
Ils sont puissants, ils sont au pouvoir depuis 47 ans et je suis sûre qu'ils vont rester avec toute leur puissance. En tout cas, ils vont essayer, ils ne partiront pas facilement.
Tous sont songeurs alors que la radio crachote des chansons iraniennes, comme cette jeune femme qui arrive du Canada avec des sentiments mêlés.
It's a little complicated. I don't like war.
C'est un peu compliqué. Je n'aime pas la guerre, mais je n'aime pas notre régime non plus. Et nous sommes les mains nues, nous ne pouvons lutter contre le régime. Donc j'imagine qu'il nous fallait de l'aide. Bien sûr, je n'aime pas être sous les bombes, mais cela fait un an que je n'ai pas vu ma famille. Je n'ai pas de nouvelles depuis plus de 2 semaines. Je ne sais pas ce qui leur est arrivé. Je veux juste aller les voir, les serrer dans mes bras.
Le jour se lève, le mont Ararat apparaît dans toute sa splendeur, la frontière approche. Les femmes mettent un voile discret. Avant de descendre, l'une d'elles insiste.
La guerre est terrible. Les bombes sont tombées à côté de ma maison. Mais je ne suis pas inquiète de rentrer dans mon pays, car je sais que les États-Unis et Israël savent où frapper précisément. Et ce n'est pas contre nous, mais contre la République islamique. Nous n'avons pas peur de l'Amérique ou d'Israël, mais nous avons peur de la République islamique. On a peur que cette guerre se termine et qu'il soit encore là. Ce serait terrible. Ce serait le pire. On peut accepter de perdre des gens pour avoir la paix, mais on ne peut pas imaginer notre pays avec eux.
Il est temps de se quitter. Les grilles de la douane se referment derrière leur bus.
France Info, reportage entre Istanbul et la frontière iranienne, signé Marie-Pierre Véro. Il est 5h24 et c'est l'heure du monde d'Élodie.
Bonjour François Damiens.
Bonjour.
Depuis plus de 20 ans maintenant, vous occupez une place très particulière dans le paysage du cinéma francophone. Le grand public vous a découvert avec vos caméras cachées, les fameuses devenues cultes, celles de François Lambrouille, où votre sens de l'improvisation, votre goût du décalage et votre manière unique de pousser les situations jusqu'à l'absurde ont marqué toute une génération. Mais derrière ces moments d'humour, parfois irrévérencieux, il y a toujours eu chez vous quelque chose de profondément humain. Aujourd'hui, on vous retrouve à l'affiche du film Police Flash 80, réalisé par Jean-Baptiste Sorel, dans lequel vous partagez notamment l'écran avec Audrey Lamy. Vous y incarnez un policier fatigué, cabossé, parfois borderline, un homme qui semble avancer en permanence sur une ligne fragile entre l'autorité, les arrangements et une forme de lassitude morale. Quand vous choisissez d'accepter de jouer ce personnage, est-ce parce que vous cherchez d'abord un rôle ou est-ce parce que vous cherchez avant tout une faille humaine à raconter ?
Oui, c'est ça. J'aime bien les personnages fracturés. J'aime aussi ce qu'on appelle les forts en gueule, les disconnects, comme on dit en Belgique, les gros coups, quoi, littéralement. Mais c'est vrai que j'aime leur donner une humanité, une profondeur, et notamment ce personnage-ci d'Yvon Castendutch, c'est un gars qui se la raconte, qui fait preuve d'abus de pouvoir, d'autorité, en sachant pas très bien toujours où il va, et une espèce de crâneur. Mais à côté de ça, la vie lui renvoie, que ce soit sa vie affective, sa vie amicale, son boulot, lui renvoie des uppercuts, et à ce moment-là, je peux jouer justement la faille. Et quelque part, ce personnage, il pourrait être détestable, mais je pense que, du moins c'est ce qu'on m'a dit, on a envie de le prendre dans les bras, on n'a pas envie qu'il lui arrive quelque chose de douloureux, quoi.
Quand vous travaillez le rôle, justement, vous vous mettez dans la peau du personnage ou vous avez l'impression de rencontrer un homme ?
Oui, mais je pense, en fait, j'ai des référents. Il me fait penser à mon oncle, par exemple, ce personnage. Il y a un peu de mon père. D'ailleurs, il y a pas mal de phrases que j'ai ressorties de mon père. À un moment, le personnage dit « On ne me donne pas d'ordre, on me transmet un souhait ». Donc, c'est des trucs que je vais picorer. C'est par l'observation. Et puis, moi, j'adore ces personnages truculents.
Le public vous a découvert avec François Lambrouille et ses caméras cachées devenues totalement mythiques et cultes. Alors là, ça vous poursuivra toute votre vie, ouais. Ça, François Damiens.
C'est ce que j'en ai refait.
Avec le recul, est-ce que vous vous dites que ces expériences étaient déjà une manière, finalement, d'observer la nature humaine ?
C'est-à-dire que quand j'étais jeune, je n'étais pas un enfant qui aimait regarder la télé, qui aimait jouer aux jeux électroniques. Et donc, j'étais toujours dans l'observation. J'observais les grands à table. Mon père m'appelait Olga quand j'étais petit. Parce que j'écoutais et j'essayais de me faire discret pour qu'on ne m'envoie pas au lit. Et puis après ça... Quand j'ai pu faire des caméras cachées, mais j'ai pu me resservir de tout ça. Et puis c'était un bel écolage, puisque comme j'ai pas fait de formation, j'ai pu m'entraîner entre guillemets. Parce qu'une caméra cachée sur une journée de tournage, on joue pendant 8 heures, quoi. Comme j'en ai fait des centaines. Quand je suis arrivé au cinéma, j'avais fait ma petite formation moi-même, quoi.
Avant de devenir acteur et de trouver votre place dans le cinéma, vous avez traversé des périodes vraiment de doute. Vous êtes posé la question de savoir si vous alliez réussir un jour à trouver votre place ?
Ben ouais, je sentais, depuis que j'étais tout petit, mes parents se disaient « qu'est-ce qu'il va faire, lui ?» Il ne s'intéresse à rien, et à la fois je m'intéressais déjà aux gens en fait, et j'en ai fait un métier, mais c'était un concours de circonstances, un ami qui travaillait dans une boîte de production qui m'a fait rentrer, et voilà, mais j'aurais pu chercher très longtemps. Ouais.
Si on se reprojette sur les bancs de l'école, le petit garçon que vous étiez était plutôt à être premier de la classe bien sage ou à regarder les autres et imaginer raconter des histoires.
Au fond de la classe, avec la fenêtre ouverte, le chauffage à 50%, en train d'essayer de faire des petits coups. Mais comme j'étais depuis que je suis très jeune, j'adore faire des blagues. Bon, comme je suis grillé depuis longtemps, donc je les fais faire par les autres, quoi. C'était pas un manque de respect par rapport au prof, mais c'était juste, comme les heures de cours étaient très longues, ben voilà, je faisais des blagues. J'arrive pas à tomber sur le mot. C'est pas des blagues, c'est un peu con. Je sais pas ce que... Mais vous voyez ce que je veux dire.
Vous piégiez les gens déjà, voilà. D'ores et déjà. En fait, vous êtes très solide de par les valeurs que vos parents vous ont transmises. On a le sentiment que cette base, elle est très solide et qu'elle vous permet justement de vous autoriser des choses qui sont assez difficiles pour d'autres.
Ben oui, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai toujours été comme je suis. J'ai jamais emprunté les mêmes routes que tout le monde. Je suis pas fait pour les trucs qui sont faits pour tout le monde. C'est triste à dire, mais il faut pas me mettre devant un écran d'ordinateur. C'est directement pathétique. Si je rentre dans un supermarché, je prends toujours la sortie. Si je dois payer dans un parking ou un truc comme ça, c'est toujours... C'est pas calculé, c'est pas pour faire l'original, quoi. Mais dès que c'est censé faciliter la vie des gens, un téléphone, par exemple, j'ai énormément de mal à m'en servir, quoi.
Pour terminer, après toutes ces rencontres, tous ces personnages, tous ces regards du public, qu'est-ce que vous avez compris de l'être humain que vous n'aviez pas compris au début de votre parcours ?
L'homme est foncièrement gentil. Alors évidemment, il y a toujours, de temps en temps, un imbécile qui se promène dans le parcours et on en parle beaucoup. Mais sinon, 99% des gens sont adorables.
Merci beaucoup, François Damiens, d'être passé dans le Monde d'Élodie sur France Info. Vous êtes actuellement à l'affiche du film Police Flash 80, un film qui nous replonge dans une époque trouble, hein, on va pas se mentir, à travers des personnages aussi humains que déroutants. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et merci à François Damiens d'avoir répondu Préjean. Il est 5h29 sur France Info.
France Info Météo, avec CIC, la facturation électronique arrive. Accompagner les entreprises dans leur transition, c'est ça construire pour que le monde bouge. Plus d'infos en agence CIC sur CIC.fr.
Christine Peña, présente aussi, oui. Avec une météo et un temps calme et de nouveau doux cet après-midi.
Oui, les 20 degrés se généralisent de la Nouvelle-Aquitaine au Limousin, autour de la Méditerranée. Ça se gâte alors avec l'arrivée des nuages, surtout cet après-midi. Hein, les températures vont plafonner à 16-17 degrés, pas davantage. Ce sera à peu près la même température plus au nord, avec 16 à Caen, à Strasbourg, 17 à Rennes, au Havre, 16 à Paris. Sous le soleil, nous aurons ce vent d'est qui soufflera fort, qui va ramener ces nuages sur le sud-est, mais également la bise de sud-est, de nord-est plutôt, qui soufflera et qui limitera un petit peu la sensation de douceur, surtout si vous restez à l'ombre. Voilà. Et puis sinon, demain, le temps sera de nouveau calme et les conditions bien ensoleillées sur le sud-est, la région PACA. Le soleil sera revenu vendredi. Ça sera une très belle journée printanière pour accueillir justement le printemps.
Merci beaucoup Christine Peña. Ce qui vous attend d'ici 6h sur France Info, la taxe sur les petits colis qui est déjà contournée par les plateformes chinoises, ce sera le choix de France Info. Nous serons aussi à Dubaï où le secteur du tourisme vacille face aux frappes iraniennes sur les Émirats. Et puis les municipales qui sont aussi à la une du journal de 5h30.
France Info.
Et désormais, on sait qui sera candidat dans chaque commune où un second tour est nécessaire. La limite pour déposer les listes, c'était hier soir. Il y a eu des surprises, des désistements annoncés hier à Paris. Par exemple, Sarah Knafo du parti Reconquête se retire pour éviter la victoire de la gauche. À Marseille, ce sont les Insoumis qui se retirent pour éviter la victoire du RN. Et puis à Bordeaux aussi, le troisième homme, Philippe de Sertine, n'a pas déposé de liste et ça pourrait profiter à l'ex-ministre Thomas Cazenave, candidat Renaissance, et menacer le maire sortant écologiste Pierre Urmic. Une autre grande ville, Lyon, où cette fois le maire écologiste semble bien parti pour conserver son poste. Grégory Doucet a fusionné ces dernières heures avec les Insoumis et son adversaire, le médiatique Jean-Michel Aulas, ne dispose pas de grandes réserves de voix pour ce second tour et sa victoire paraît s'éloigner, Christophe Vincent.
Au foot, comme dans les affaires, Jean-Michel Aulas a toujours préféré la première place à la deuxième, d'où sa déception visible dimanche soir et sa métaphore sportive « il y a un match retour ». Mais s'il n'est pas le meilleur débatteur politique, l'ancien chef d'entreprise sait compter. Dimanche, il va remobiliser son électorat de la droite et du centre. Il doit aussi séduire ceux qui ont voté pour l'ancien maire Georges Kepenekian, 3,5%, et espérer le report naturel des voix du candidat Ciottiste TRN, crédité de 7%. Alexandre Dupalet l'avait traité de « socialiste ». Ses électeurs sont libres et ne voteront pas à gauche, mais ils peuvent s'abstenir. Restent les indécis, Colas tente de convaincre tous les jours sur le terrain.
Merci Christophe Vincent à Lyon pour France Info. Il est 5h32, les États-Unis mènent des frappes très puissantes dans la région du détroit d'Ormuz contre l'Iran qui continue de bloquer quasiment toute la circulation des bateaux dans la zone où circule normalement une grande partie des hydrocarbures mondiaux. Dans le même temps, l'armée iranienne, elle promet de venger Ali Larijani, le chef de la milice Basiji, l'un des hommes les plus puissants du pays qui a été tué dans des frappes israélo-américaines. L'État hébreu de son côté poursuit aussi ses bombardements au Liban contre le Hezbollah pro-Iran. Au moins 6 personnes ont été tuées cette nuit dans le centre de Beyrouth selon les autorités. L'armée israélienne donne l'ordre d'évacuer un quartier de la capitale libanaise. Des explosions ont d'ailleurs été entendues déjà il y a quelques minutes. En Gironde, 4 adolescents de 14 à 16 ans ont été placés en garde à vue. Ils sont soupçonnés dans une série d'agressions homophobes. 7 victimes ont été recensées, des hommes ciblés via l'application de rencontres gays Grindr. C'est le signe que l'on consomme de plus en plus de cocaïne et de kétamine en Europe. Les résidus de ces deux stupéfiants ont fortement augmenté en 2025 dans les eaux usées de 72 millions d'Européens. En revanche, une forte baisse est enregistrée pour l'ecstasy. Et puis le PSG roule au compresseur. Vainqueur 5-2 hier au match aller. Le Paris Saint-Germain s'est à nouveau largement imposé hier soir. 3-0 sur la pelouse de Chelsea en 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Nicolas Perronnet.
Dans la célébration collective, en fin de match, il y a le sentiment du devoir accompli. Mais il y a aussi un message envoyé à toute l'Europe. Cette fois, c'est sûr, le champion en titre est bien de retour. Et le capitaine Marquinhos est là pour le transmettre.
Ça parlait beaucoup de physique, et de qui pariait n'était pas prêt encore, qui a parié le niveau de l'année dernière. Aujourd'hui, on a réussi à montrer qu'on peut tourner les choses très vite. Et c'est ça le haut niveau et je pense qu'on gagne en confiance pour continuer dans le bon sens.
Le champion d'Europe a donc enfin retrouvé la recette. Une potion magique à effet immédiat pour ses supporters.
Que demander de plus ? On peut rien demander de plus. Rendez-vous, Galatasaray ou Liverpool, peu importe. Ce sera le même résultat.
Le même sentiment, en tout cas, d'être redevenu invincible et candidat crédible pour conserver le trophée.
Vu comment on est parti là, si on maintient ce niveau-là, on ne peut qu'aller au bout.
Mais bien sûr, c'est parti pour et je pense que ça va bien se finir. Très très bien se finir comme l'année dernière.
En une semaine, le PSG a donc tout changé jusqu'à s'avancer sereinement vers le 10e quart de finale de son histoire en Ligue des Champions.
Et les Parisiens connaîtront justement ce soir leur adversaire, ce sera Liverpool ou le club turc de Galatasaray. Il est 5h35.
France Info, 5h-6h, William Gecosta.
C'est un énorme retournement qui a stupéfait le monde du foot tout entier. La Coupe d'Afrique des Nations, la CAN, est finalement retirée au Sénégal. Le titre est attribué au Maroc, pourtant battu en finale. C'est une décision qui est tombée hier soir du jury d'appel de la Confédération africaine de football. Elle a décidé de déclarer le Sénégal forfait lors de la finale, remportée 1-0 par les Sénégalais. Le résultat qui est retenu finalement, c'est 3-0 en faveur du Maroc. Une condamnation en quelque sorte du Sénégal, alors que des joueurs avaient quitté le terrain lors de cette finale houleuse, un temps pour critiquer une décision arbitrale. Et cette décision du jury d'appel, elle a donc stupéfait tout le monde, à commencer par le consultant football de France Info, Jérôme Alonso.
J'ai 53 ans, je pensais avoir tout vu dans mon petit milieu. Je pensais vraiment avoir tout vu. C'est assez flou pour l'instant, donc on reprocherait effectivement ce qui avait été reproché aux Sénégalais le soir du match d'avoir quitté le terrain. Je pensais que le règlement, c'était qu'il fallait que tous les joueurs quittent le terrain, alors qu'on avait bien vu que Sadio Mané, lui, était resté sur le terrain. Donc on n'avait plus trop parlé. Donc des manquements ont été notés côté sénégalais et c'est ça qui a été sanctionné. J'ai l'impression, moi, qu'il y a aussi eu des manquements côté marocain au niveau de l'organisation et notamment des ramasseurs de balles qui ont agressé le gardien remplaçant Evan Diouf, le gardien du Sénégal. Donc, je m'interroge beaucoup. Je suis estomaqué comme vous, comme tout le monde, j'imagine aujourd'hui. Je pense que même les supporters marocains doivent pas en revenir. Mais voilà, pour l'instant, c'est un coup de tonnerre. Mais apparemment, c'est les manquements et le fait que le Sénégal ait quitté le terrain qui va leur être préjudiciable. J'ai jamais vu.
Oui, effectivement, c'est l'article 82 qui est mis en avant par le jury d'appel de la Coupe d'Afrique des Nations avec si pour n'importe quelle raison une équipe quitte le terrain avant la fin réglementaire du match sans l'autorisation de l'arbitre, elle sera considérée comme perdante et définitivement éliminée. Après, ce qui peut surprendre, ok, il y a ce règlement, mais c'est une décision, Jérôme, qui tombe 2 mois après la finale.
Oui, parce que vous avez raison. En fait, on s'était posé la question le soir même, je me rappelle très bien, tous les confrères consultants s'étaient posé la question, mais encore une fois, il y avait un point très précis qui était qu'il y avait un joueur qui était resté sur le terrain, donc il n'y avait pas d'abandon considéré, en fait, d'abandon de poste, en fait, puisqu'il y avait un joueur qui était resté. Mais, qu'on le veuille ou non, c'est vrai que la CAF a aussi ses propres règlements. Se posera évidemment dans quelques heures la question des pressions éventuelles du pays hôte. On est au tout début de l'affaire. Ça a été une tellement belle compétition avec des matchs incroyables. Et je trouve que moi qui côtoie le football africain depuis que j'ai débuté dans le football il y a 30 ans et qui est un football magnifique, qui est un continent de football extraordinaire. Malheureusement, cette affaire va venir entacher le sérieux de sa fédération majeure. Et c'est ça qui est regrettable, je trouve, pour le foot africain.
Et le consultant football, Jérôme Alonso de France Info avec Hélène Zélani et Fanny Lechevestrier. D'ailleurs, le Sénégal annonce saisir le tribunal arbitral du sport.
France Info, Municipal 2026.
Pour le second tour à Paris, 5 listes étaient qualifiées, mais il n'y en aura finalement que 3. Après la fusion des listes du candidat Horizon Pierre-Yves Bournazel avec celle de la candidate LR Rachida Dati, c'est Sarah Knafo, la candidate Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, qui annonce se retirer. Bonjour Pierrick Bonneau.
Bonjour.
Sarah Knafo, elle dit vouloir chasser la gauche de la mairie de Paris.
Elle a arraché sa qualification pour le second tour dimanche avec 10,4% des voix et se retire quelques heures plus tard. La partenaire d'Éric Zemmour en politique comme dans la vie explique son choix après avoir tenté de nouer une alliance avec la candidate LR. Sarah Knafo affirme qu'elle ne se désiste pas pour la personne de Rachida Dati, mais pour la ville de Paris.
Par sens des responsabilités, par amour de Paris, par respect des Parisiens, à qui j'ai dit dès le premier jour de ma campagne que mon objectif était de battre la gauche, j'ai pris cette décision qui est lourde, une décision douloureuse que je prends pour être responsable et pour la capitale de mon pays. Et aujourd'hui, je dois choisir le moindre mal parce que les électeurs en ont décidé ainsi et par conséquent, je me plie à leur choix.
La députée européenne insiste, on ne peut pas laisser Paris aux communistes, à leurs alliés et aux antisémites, ceux qui, dit-elle, veulent transformer la capitale en HLM géant.
Et la partie est donc relancée à Paris, Pierrick.
Oui, en tout cas, Sarah Knafo complique la tâche du candidat socialiste Emmanuel Grégoire, lui qui refuse de s'allier au second tour avec Sophia Chikirou, l'insoumise qui a fait 12% au premier tour et qui ne se retire pas au profit du socialiste. On va donc assister à une triangulaire à Paris, la liste du centre et de la droite de Rachida Dati, la liste de gauche menée par Emmanuel Grégoire et celle des insoumis derrière Sophia Chikirou. Donc, en interne, le retrait de Sarah Knafo fait des remous chez Reconquête, mais pour l'ambitieuse députée européenne encore peu connue avant le début de cette campagne, c'est gagnant-gagnant. Si Rachida Dati remporte la mairie de Paris, Sarah Knafo pourra dire que c'est en partie grâce à elle. Si l'ex-ministre de la Culture perd, elle pourra affirmer que ce n'est pas de sa faute. Avec cette qualification sur le fil puis ce retrait, la désormais ex-candidate d'extrême droite s'installe dans le jeu politique.
Merci beaucoup Pierrick Bonneau du service politique de France Info. On l'entendait, Sarah Knafo d'extrême droite compte chasser la gauche. C'est ce qui se passe à Arnes dans le Pas-de-Calais. C'est une page politique qui se tourne dans cette ville de 12 000 habitants, qui était un bastion de la gauche, mais qui a finalement basculé dans le giron du Rassemblement National dès le premier tour dimanche dernier. Après 18 ans à la tête de la ville, le maire sortant s'apprête donc à transmettre son écharpe tricolore et après un choc pour lui du résultat, l'heure est maintenant venue de faire les cartons, Farida Noir.
Allez-y, rentrez.
Bonjour monsieur le maire.
Vous pouvez encore m'appeler monsieur le maire jusque dimanche 11h précise.
Passé cette heure, Philippe Duquesnoy laissera les clés de la mairie et les rênes de la ville d'Arnes à son successeur.
Il y a eu un vote démocratique.
Anthony Gareno-Glinkowski, 34 ans, du Rassemblement National, vainqueur dès le premier tour.
Il faut que je débarrasse les armoires et puis il y a 18 ans de travail qui s'est accumulé.
Et des souvenirs aussi.
J'ai enlevé pas mal de petites choses, quelques cadres avec mes petits-enfants.
Et le ballon de rugby, là, 1924.
Moi, je repars avec. Je suis un rugbyman, vous voyez, on a encore deux là-bas.
C'était son dernier essai, son troisième mandat s'achève, il avait choisi de ne pas se représenter. Qu'est-ce que vous avez ressenti dimanche à l'annonce des résultats ?
Non seulement je l'ai vu s'afficher, mais c'est moi qui l'ai prononcé. C'était difficile pour moi. Oui, c'est le RN qui est là. Ça m'a fait extrêmement mal, mais on est tombé de haut, parce que franchement, on s'attendait à un deuxième tour.
Qu'est-ce qui a fait que le RN arrive aujourd'hui au pouvoir dans votre commune, qui était à gauche, c'est ça, depuis des décennies ?
La première chose qui n'a pas fonctionné, c'est qu'on a eu deux listes de gauche. Mais la seconde chose, c'est, vous le sentez, vous le voyez, c'est au niveau national, cette influence. Le local s'est approprié le national, et ça, c'est terrible.
Est-ce que vous avez l'impression, au vu de ce résultat, d'avoir raté quelque chose ? Est-ce que vous vous sentez responsable ?
Est-ce que j'ai une part de responsabilité ? Sans doute. J'ai dû mécontenter des gens, bien sûr. Mais je suis fier de ce qui est devenu ma ville. Je ne vois pas ce que j'aurais pu faire d'autre. On peut dire, ben Philippe, il fallait que tu te représentes. Je ne pense pas que j'aurais été capable de repartir en campagne. C'est quelque chose de lourd.
Est-ce que vous avez envie de souhaiter quelque chose ? À votre successeur.
Je veux qu'il agisse correctement. Si je souhaite une non-réussite, ça veut dire que ma population sera malheureuse. Et je ne le souhaite absolument pas.
Sur le chariot, près de son bureau, où s'amoncellent les souvenirs.
Mes livres, par exemple, j'aime beaucoup lire.
Lui referme son chapitre de maire. La prochaine page de l'histoire d'Arnes, elle s'écrira à partir de dimanche avec le Rassemblement National.
France Info, reportage signé Farida Noir dans le Pas-de-Calais. Nous allons continuer sur France Info à évoquer ses désistements et ses retournements notamment dans les municipales avant le second tour de dimanche prochain. On le rappelle, les listes devaient être déposées, dernier délai hier à 18h. On continue de l'évoquer sur France Info dans nos journaux avec nos reporters et nos experts. Dans un instant, nous sommes à Dubaï. Vous allez l'entendre, les touristes désertent chaque jour un peu plus l'Émirat depuis le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient. Ce sera après un nouveau tour complet de l'actualité.
France Info, 5h-6h.
À 6h moins le quart, l'info en une minute, c'est avec Maureen Suignard. Et à la une, l'Iran qui confirme la mort du chef du Conseil suprême de la sécurité.
Ali Larijani a été tué lors d'une frappe israélienne et américaine. Le chef de l'armée iranienne promet de venger sa mort. Les États-Unis disent également avoir visé avec succès des sites de missiles iraniens près du détroit d'Hormuz. Le Parti socialiste retire son investiture à Catherine Trottmann à Strasbourg. La candidate est pourtant arrivée en tête au premier tour des élections municipales. Mais pour le second tour dimanche, elle a décidé de nouer un accord avec le candidat de centre-droit, ce que refuse le PS. Catherine Trottmann aura donc face à elle la maire écologiste sortante qui s'est alliée avec la France insoumise. Ils sont soupçonnés d'avoir mené une série d'agressions homophobes. Quatre adolescents de 14 à 16 ans viennent d'être placés en garde à vue en Gironde. Sept victimes identifiées depuis le début du mois de mars. Direction les quarts de finale de la Ligue des champions de football. Le PSG a battu Chelsea 3-0 hier soir. Les Parisiens joueront contre Liverpool ou le club turc de Galatasaray.
France Info.
Un projectile iranien s'est écrasé à proximité du quartier général de l'armée australienne aux Émirats Arabes Unis. C'est ce qu'annonce cette nuit Canberra. La défense aérienne des Émirats continue d'intercepter des dizaines de drones et missiles lancés contre son territoire, mais parfois elle n'y arrive pas. On en a eu un exemple avec ce QG australien. L'aéroport de Dubaï, il a aussi été touché il y a deux jours. Une situation dangereuse et angoissante qui plombe le tourisme. Alors que Dubaï a accueilli près de 20 millions de touristes l'an dernier, ils ont désormais déserter la ville, Julie-Marie Lecomte.
Ces temps-ci, les clients se font rares et ce chauffeur de taxi déteste quand une énième alerte vient perturber une course.
Ça fait quoi, 15 jours, 20 jours que c'est comme ça? Chaque fois c'est pareil, la même alarme et il ne se passe rien. À Dubaï, on est en sécurité. Tout le monde a besoin de travailler. On a des familles à nourrir.
Chiffre d'affaires en baisse de 80%, disent beaucoup de ses collègues. Direction la marina, William, lui, n'a pas besoin de compter les clients. Au pied des gratte-ciels, ses jet-skis restent désespérément à quai. Aucun engin en mer et faire des prix ne change rien.
Avant, c'était 500 dirhams pour une heure. Maintenant, c'est 350.
Sur la plage, les clubs privés, eux aussi, font des offres.
That is still a marketing strategy, which...
C'est une stratégie marketing que tout le monde utilise en ce moment. Venez au Blabla et vous vous en souviendrez toute votre vie. Vous finirez par revenir. Les bonnes ondes vous ramèneront de force.
Mais les transats restent vides. Sophia a installé sa serviette sur le sable. L'Italienne prend le soleil avant d'aller travailler. C'est seulement la deuxième fois qu'elle ose le faire depuis le début du conflit.
Beaucoup de gens sont partis. J'ai essayé. Les premiers jours, je voulais vraiment partir. Mais maintenant, je me dis que c'est plus sûr d'être ici que de prendre l'avion. C'est une vraie guerre, bien sûr, mais on n'a pas l'impression qu'une guerre est en cours.
Sophia trouve qu'elle a de la chance pour l'instant. En tout cas, son emploi de serveuse dans une pizzeria n'est pas menacé.
Dans ma boîte, en tout cas, ils ont dit qu'ils ne prévoyaient pas de rompre les contrats, de renvoyer des gens chez eux ou de les mettre en congé sans solde. Par contre, il y a des entreprises qui, par peur peut-être, ont beaucoup licencié. Et cela, c'est un peu plus tendu.
Être au chômage à Dubaï, inenvisageable, dit la jeune femme. De toute façon, elle perdrait son visa, ce serait retour à Rome immédiat.
France Info, reportage à Dubaï, signé Julie-Marie Lecomte et Alexandre Abergel. Il est 5h47 et c'est l'heure du choix de France Info. Les taxes sur les petits colis est-elle une fausse bonne idée? Elle était présentée par le gouvernement comme un moyen de s'attaquer aux géants du e-commerce chinois comme Shein ou Temu. Mais moins d'un mois après son entrée en vigueur, eh bien, ces géants se sont adaptés. Ils revoient leur logistique pour la contourner et des emplois sont désormais menacés. Bonjour Thomas Vinclair.
Bonjour.
Vous êtes rendu dans un des entrepôts de l'aéroport de Roissy, près de Paris. Un entrepôt quasiment vide.
10 000 m² totalement vide. La surface d'un terrain
terrain de foot et demi. Aucun colis à l'horizon, mais des salariés qui sont bien là. Dans cet entrepôt, les parties de foot rythment désormais les journées de François-Xavier.
Je vois des jeux, on essaye de faire passer le temps. On est obligé d'être sur le lieu de travail. Honnêtement, on n'est pas payé à ça.
Depuis l'instauration de la taxe petit colis, ce salarié n'a plus aucune palette à trier. Embauché récemment, il est très inquiet pour son avenir.
On est quasiment tous des pères de famille et quand on vient au travail, c'est pour subvenir aux besoins de la maison. Et aujourd'hui, on vient au travail en ne sachant pas si demain on pourra venir au travail tout simplement. Je n'ai qu'un seul cri d'appel, c'est que le gouvernement entende nos souffrances, notre mal-être.
Comme François-Xavier, une centaine de salariés se tournent désormais les pouces, tandis que plusieurs dizaines d'intérimaires n'ont plus de contrat. Pourtant, avant, il y avait de l'activité ici, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
On avait à peu près 200 000 colis par jour ici.
Frédéric Campagnac est le président de Clivy Links, c'était le numéro 1 en France du dédouanement dans le e-commerce.
Et du jour au lendemain, tout s'est arrêté en 24 heures.
Car en Europe, la France est aujourd'hui le seul pays à appliquer cette taxe petit colis. Les Chines, Temu se sont donc adaptés. Désormais, leurs avions cargo atterrissent à Liège, en Belgique ou Amsterdam, aux Pays-Bas, là où il n'y a pas cette taxe.
C'est un gâchis énorme parce que le seul effet de la taxe a porté sur la destruction de la logistique française. Les e-commerçants ne sont absolument pas impactés par l'effet de la taxe.
Les colis reviennent ensuite en France par camion. Une réorganisation qui ne coûte qu'un centime de plus par produit, estime cet entrepreneur. Frédéric Campagnac qui alerte aussi sur les risques pour les consommateurs. Car avant cette taxe, il avait tous les jours une visite des douaniers dans son gigantesque entrepôt.
Qu'est-ce que vous voulez contrôler maintenant ? Est-ce que le meilleur moyen d'aider, c'est de faire partir les colis de France ?
L'Italie, elle, a fait marche arrière dans ce dossier après avoir mis en place cette taxe de 2 euros début janvier. Elle a finalement suspendu cette réforme face aux effets négatifs. Hors de question à ce jour pour le gouvernement français. Il assure suivre de près la situation des acteurs touchés. Clivy Links risque de mettre rapidement la clé sous la porte car l'entrepôt situé au bord des pistes est loué pour 2 millions d'euros chaque année.
Merci beaucoup Thomas Vinclair en reportage dans cet entrepôt de l'aéroport de Roissy en région parisienne. En voilà un autre d'entrepôt qu'utilise Shein, le géant chinois, pour sa nouvelle logistique. Un entrepôt géant qui vient d'être construit à l'ouest de la Pologne. Tout cela inquiète la filière prêt-à-porter féminin en France. Cet entrepôt, c'est selon elle la preuve, Sophie Ovin, que la plateforme chinoise compte inonder le continent européen avec ses produits.
Yann Rivoallant en avait entendu parler, un entrepôt sans équivalent, 5 fois plus grand que pour Amazon, la superficie de 100 terrains de foot. Alors le président de la Fédération du prêt-à-porter féminin a voulu juger par lui-même sur place en Pologne.
Cet entrepôt, il est aussi impressionnant que flippant, parce qu'on voit le gigantisme de Shein, société de près de 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires, et quand on voit le nombre d'entrées pour camions, on comprend le volume démentiel qui va être mis en place et qu'on est à l'aube de ces déversements.
Une sorte de hub européen pour les 5 milliards de produits Chine qui arrivent chaque année sur le continent. Construit, semble-t-il, pour éviter les récentes taxes sur les petits colis. Conséquence, c'est la TVA à 20% qui va s'appliquer. Ça reste intéressant pour Chine.
Donc la robe, au lieu d'être à 3 euros, passera à 3,60 euros. C'est toujours inférieur à une taxe de petits colis où la robe serait passée de 3 euros à 5 euros.
Alors comment protéger les commerçants français d'un déferlement annoncé de produits? Eh bien, grâce à la future loi anti-fast fashion, selon Yann Rivoallant, elle instaure des malus de 5 euros par produit et interdit la publicité pour l'ultra-fast fashion. Les professionnels français espèrent voir cette loi enfin votée avant l'été.
Merci beaucoup Sophie Ovigne, spécialiste consommation de France Info. Vous retrouvez le choix de France Info en réécoute sur l'application Radio France et sur franceinfo.fr. Maureen Suignard arrive dans quelques instants pour sa playlist. Hier, elle nous avouait regarder toujours des films sur VHS. Aujourd'hui, elle va nous parler de vinyle, toujours aussi jeune, Maureen. Bravo.
C'est cool le vintage.
Exactement. D'abord, parlons de l'écho. C'est cool aussi l'écho avec Emmanuel Cuny. Bonjour Emmanuel.
Bonjour à tous.
Le réveil de l'écho avec le Crédit Coopératif. Banque engagée à vos côtés pour un monde plus durable et inclusif. Crédit Coopératif, une autre banque est possible.
L'actu écho en trois titres. Commençons Emmanuel avec les salariés du site Le Bon Coin qui se mettent en grève. C'est une première en France selon les syndicats.
Oui, une journée de débrayage ce mercredi. Les employés dénoncent la dégradation de leurs conditions de travail. Dégradation qu'ils attribuent au rachat du site d'e-commerce par deux fonds d'investissement anglo-saxons. en l'occurrence le fonds américain Blackstone et le britannique Permira. L'intersyndicale CFDT, CGT et Solidaire Informatique soupçonnent notamment la direction de vouloir réduire la masse salariale. La même intersyndicale s'inquiète également de la réduction jugée forte et brutale du télétravail par la direction.
La compagnie aérienne scandinave SAS prend de premières mesures face à la hausse des prix du pétrole.
Oui, c'est parti. Le groupe annonce qu'il va annuler purement et simplement au moins 1 000 000 de vols au mois d'avril, et ce, en raison de la flambée des cours du brut avec la guerre au Moyen-Orient. La direction de la compagnie affirme que le prix du kérosène a doublé en 10 jours. SAS avait été l'une des premières compagnies à annoncer le 10 mars une hausse de ses prix pour tenir compte justement de l'envolée des prix du carburant pour avions.
Le milliardaire américain Elon Musk franchit un nouveau cap dans la constitution de sa constellation de satellites.
Oui, sa constellation vient en effet de franchir le seuil symbolique de 10 000 satellites en orbite autour de la Terre, en orbite basse, donc à partir de 200 km de distance au-dessus de la Terre. C'est 15 fois plus, ces 10 000 satellites, 15 fois plus que le concurrent européen Eutelsat.
Emmanuel Cuny, on va vous retrouver dans une demi-heure sur France Info, ce sera votre brief éco.
Les aides publiques aux énergies renouvelables coûtent trop cher à l'État. C'est la Cour des comptes qui le dit dans son tout dernier rapport. Alors l'institution critique, mais elle appelle aussi à un meilleur contrôle de ses dépenses. Elle donne quelques solutions, chiffres à l'appui.
Merci beaucoup Emmanuel Cuny, à tout à l'heure sur France Info. Il est 5h55 et c'est l'heure de retrouver la playlist, comme tous les jours, de Maureen Suignard. Et Maureen, ce matin, vous nous parlez d'un vieux record battu aux États-Unis.
Un record qui datait précisément de 1983, William. Si pour la première fois en 40 ans tout de même, le format vinyle a atteint le milliard de dollars de recettes annuelles aux États-Unis et cela nous pousse encore une fois à parler d'elle. Les ventes de 33 et de 45 tours connaissent une très forte hausse aux États-Unis et Taylor Swift, que l'on entend, y est pour quelque chose, puisque c'est la star de la pop qui a vendu le plus grand nombre de vinyles l'année dernière, environ 1 600 000 exemplaires pour son album The Life of a Showgirl. Une stratégie marketing redoutable. Et derrière tout ça, l'artiste a publié 8 versions différentes de son vinyle avec plusieurs pochettes, parfois des titres inédits et aussi des posters. Et dans le top des ventes, derrière Taylor Swift, je vais y arriver, très loin derrière elle, se placent Sabrina Carpenter, Kendrick Lamar ou encore Fleetwood Mac. Un tube qui a 50 ans, oui, qui vient de sortir, mais qui se vend encore par milliers parce que le morceau a beaucoup été repris sur les réseaux sociaux et aussi parce que le vinyle, c'est aussi posséder un objet de collection qui permet d'écouter ses vieux morceaux préférés. En France aussi, l'amour de la galette est bien là. On parle toujours de musique, William. En 2024, le marché du vinyle en termes de chiffre d'affaires a dépassé celui du CD, ce qui n'était pas arrivé depuis 1987. Le marché est encore en croissance. Et cette année-là, c'est l'américaine Billie Eilish qui a vendu le plus de vinyles en France, donc en 2024. Devant Taylor Swift en France, dont on a parlé, devant Damso aussi, qui avait commercialisé une édition collector limitée de son album. Les artistes sont très nombreux à surfer sur la tendance vinyle de cette manière. Et juste derrière ce trio de têtes, on retrouve The Weeknd et ce monsieur. Vous l'aurez reconnu.
Non, qui c'est ?
Oui, un certain Michael Jackson, dans le top 2025 avec un album de 1982. Le vintage n'est pas mort, vive le vintage.
Merci beaucoup Maureen Suignard. Moi j'ai même vu des gens revenir avec des cassettes aussi, vous savez, avec les petits Walkman et des petites cassettes pour écouter leur musique. Donc vraiment, le vintage n'a pas de limite. Merci beaucoup. Allez, c'est l'heure de la météo. France
France Info Météo avec CIC. La facturation électronique arrive. Accompagner les entreprises dans leur transition, c'est ça construire pour que le monde bouge. Plus d'infos en agence CIC sur cic.fr.
Christine Peña, je vais faire un craquement pendant votre météo pour donner une petite ambiance vinyle. Ça vous dit ?
Allez. Ça me dit bien. Ouais. C'était spécial pour moi cette playlist.
Ah oui, ça vous rappelle des souvenirs.
Mais calme. Je suis sûre que vous avez dansé, Christine.
Absolument.
Oui, évidemment. Le souvenir du soleil aussi revient. Oui. Il s'impose dès ce matin.
Il va s'imposer effectivement une fois levé, hein, parce que là, pour l'instant, il fait dodo. Il va s'imposer un petit peu partout. On a quand même des nuages qui arrivent sur le quart sud-est, hein, par les Alpes du Sud, la Corse, c'est déjà bien ennuagé. On a quelques averses qui vont se produire dès ce matin. De la neige à 1200 mètres d'altitude pour les Alpes du Sud. Et puis, petit à petit, ça va se décaler sur la vallée du Rhône, le Languedoc-Roussillon, en apportant quelques faibles averses. Pas grand-chose, c'est surtout une invasion nuageuse. Et c'est vraiment pour aujourd'hui. Hein. Demain, ça y est, le soleil sera revenu même sur le sud-est. Petit fait nouveau, c'est cette bise de nord-est qui est bien rafraîchissante. Elle va limiter cette sensation de douceur parce que les températures remontent tout de même. Hein. 16 degrés, alors tant en Méditerranée avec les nuages que sur la partie nord et notamment à Paris. Et souvent 20 degrés entre la Nouvelle-Aquitaine et les contreforts du Massif central.
Bon, ben, je vous fais la bise, Christine Peña. Oui, c'est l'heure de passer l'antenne à Jérôme Chapuis qui a sorti sa collection de 78 tours. Bon, lui,
bien
je crois.
Sûr, bise.
On a pour tout le monde. Hein.
Et à tout à l'heure, oui, William Gay-Costa, oui, sans rancune, évidemment. On va continuer de parler beaucoup des municipales aujourd'hui, un peu du soleil aussi, j'espère, avec vous, Christine Peña.
Absolument.
On va continuer sur ces bonnes bases, puisque le printemps approche. Nous sommes déjà le 18 mars, en ce mercredi. Bienvenue dans le 6-9 qui commence, puisqu'il est presque 6 heures.
France Info, 6h-9h, Jérôme Chapuis.
Et à la une, bonjour Sarah Ders.
Bonjour.
Le second tour des municipales et les listes.